Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au lycée Champollion de Figeac ce 16 décembre 2020 et c'est notre troisième jeu des 1000 curieux à Figeac avec Radio Franca et le Cirasti. Un grand merci à Mariem, Gilles et Laurent Nonorgue, professeurs électroniques du club Robotronique du lycée des métiers Champollion. Et un petit clin d'œil à Julien des Radio Franca. C'est parti pour le jeu des 1000 curieux préparé par le Radisound.
Le jeu des 1000 curieux.
Comme c'est curieux.
Le jeu des 1000 curieux.
Il est juste curieux, c'est tout.
Le jeu des 1000 curieux.
Bien joué, Clara!
Nous ne sommes que des savants, chère petite madame, pas des animateurs de jeux radiophoniques.
Le jeu des 1000 curieux.
Ouais, c'est curieux.
Et voilà, c'est parti, le jeu des 1000 curieux. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, donc autour de ce plateau radio, nous avons du monde et chacun va se présenter.
Bonjour, je suis un élève de Terminale SN au lycée Champollion.
Oui, ton prénom ?
Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, moi c'est Lohan, c'est dans la même classe, donc voilà, et je suis le délégué de la classe.
Voilà. Ok Lohan.
Bonjour, moi c'est Maxime, et pareil, élève des TSN.
Bonjour Maxime.
Bonjour, moi c'est Aurélien, je suis en Terminale SN, option risque.
D'accord.
Bonjour, moi c'est Mathis Barreau-Dupuis, je suis aussi en Terminale SN.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Théo Ratier, en Terminale SN.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Hugo Lela, en Terminale SN, option risque.
Gestion risque, ok. Ensuite, on va passer à d'autres élèves, mais on a aussi deux invités.
Bonjour, Antoine Mauget, donc je suis ingénieur conception au bureau d'études cockpit chez Ratier Figeac.
Bonjour, moi c'est Vianney Grislin. Je suis responsable du bureau d'études électronique embarquée à Ratier-Figeac.
Bienvenue.
Moi, c'est Vincent Maillot, en terminale SN, comme tous les autres.
Ok.
Bonjour, moi, c'est Thibaut Dancé, toujours en terminale SN.
Bonjour, moi, c'est Émilie Molineur, en terminale SN.
Eh bien, bienvenue, Mémy.
Je suis la seule fille de la classe.
Et donc, tu es chouchoutée.
Je ne tiens pas à être chouchouté.
D'accord, ok.
Bonjour, moi c'est le Duc Clément et je suis en terminale SN, option risque.
Ok.
Et moi c'est Yann Klimzak, je suis aussi en terminale SN, option risque.
D'accord. Eh bien, bah, écoutez, c'est parti maintenant. On se connaît un petit peu tous, donc moi c'est Claire, donc vous avez vu Gilles. Alors voilà, on va commencer le jeu. Alors le jeu des 1000 curieux. Généralement, il s'apparente évidemment avec les sciences. Normalement, les cinémas devaient rouvrir hier. Et comme on a envie de voir des films, bon, évidemment, on peut les voir, les films, sur des plateformes, en streaming, en DVD, en VHS. Vous connaissez encore la VHS ? Oui. Ok. Et ben voilà, là, je vais vous faire écouter le thème d'un film évidemment, de science-fiction, mais peut-être que... Je n'ai pas fait envoyer le jingle de science-fiction. Eh bien, on va envoyer le jingle de science-fiction.
Science-fiction.
Je disais donc que nous allons écouter le thème du film. Alors, je vous donne quelques indications. Le film, il a été réalisé en 2008. Alors, le réalisateur, il n'est peut-être pas très connu. Il s'appelle John Favreau. Vous connaissez ?
De nom.
Ok. Allez, on peut envoyer le thème. Alors, est-ce qu'on a des réponses ? Alors, vous avez pas deviné quel thème c'est ?
Je l'ai pas non plus.
Moi non plus.
Donc c'est un film de 2008 et c'est un des premiers films cinématographiques Marvel.
Iron Man ?
Yes ! Iron Man ! Qui c'est qui veut un petit peu résumer qu'est-ce que c'est Iron Man ?
Ben, c'est un millionnaire, enfin milliardaire. Il a pas de pouvoir, mais il s'est créé lui-même ses pouvoirs avec une armure. Et du coup, ben, c'est le premier Avenger.
Voilà. Eh bien, on va écouter sa biographie qui est racontée dans le film.
Tony Stark. Un visionnaire. Un génie. Un Américain patriote. Dès son plus jeune âge, le fils du légendaire concepteur d'armes Howard Stark lui vola rapidement la vedette grâce à son esprit brillant et unique. À 4 ans, il construisit son premier circuit imprimé. À 6 ans, son premier engin à moteur. Et à 17 ans, il décrocha son diplôme du MIT avec mention très bien. Mais soudain, le décès d'un titan. L'ami et allié de toujours de Howard Stark, Obadiah Stane, intervient pour remplir le vide laissé par le fondateur légendaire. Jusqu'à ce qu'à 21 ans, le fils prodigue de retour soit sacré nouveau PDG de Stark Industries. Grâce aux clés du royaume, Tony inaugure une ère nouvelle pour l'héritage de son père. Armes plus intelligentes, robotique de pointe, ciblage par satellite. Aujourd'hui, Tony Stark a changé le visage des industries de l'armement. En veillant sur la liberté et en protégeant l'Amérique et ses intérêts autour du globe.
Voilà, et évidemment, on va pas oublier son assistante, quand même, qui s'appelle Pepper. Antoine et Vianney, est-ce que vous êtes devenus un peu comme Tony Stark ? Présentez-vous.
Je commence, Vianney. Allez, donc, comme je dis, Antoine Mauget, ingénieur au bureau d'études Cockpit, donc à Ratier-Figeac. Qu'est-ce qu'on fait au bureau d'études Cockpit ? Donc on conçoit, on développe et on teste et on fabrique des commandes de vol. Donc tous les équipements qui permettent au pilote de contrôler l'avion selon ces trois axes de rotation. Donc ça va des side sticks qui sont manipulés par les pilotes grâce à leurs mains. On parle aussi des pédaliers pour contrôler la gouverne de direction. On va jusqu'aux manettes de gaz. Ou encore d'autres modules pour voilà contrôler d'autres organes de pilotage.
Et nous côté bureau d'études électroniques, en fait, on est transverse et on répond aux besoins de tous les ingénieurs systèmes de Ratier, dont les équipements de commande de vol qu'a décrit Antoine, mais aussi des systèmes électroniques qu'on installe dans les hélices, qu'on installe dans tous les produits qui sont conçus par Ratier. Donc notre fonction principale, c'est de répondre aux besoins du client interne, qui lui-même répond aux besoins de l'avionneur. Et pour ça, donc on développe, on teste les fonctions électroniques. Donc il y a plusieurs métiers là-dedans. Il y a la conception électronique, celle qu'on peut voir avec tous les composants. Donc voilà, les composants électroniques, quels composants, quelle résistance, quelle capacité mettre, etc. On a sur beaucoup d'électronique des microprocesseurs, donc sur lesquels on doit développer le logiciel embarqué qu'on vient télécharger sur le microprocesseur pour assurer les fonctions demandées par l'électronique. Et aussi, on a tout le volet compatibilité électromagnétique, parce que les électroniques, d'une part, c'est ce qu'on disait avec les téléphones portables, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient éteints, c'est parce qu'ils émettent des ondes. Et donc, il faut que nos systèmes soient immunes, en fait, soient protégés contre ces ondes. Et même, faut pas qu'ils émettent trop pour perturber les autres équipements qu'il y a autour d'eux.
Et alors moi, je vous poserai la question, est-ce que vous avez été un petit peu comme Tony Stark, c'est-à-dire vous avez baigné là-dedans quand vous étiez petit, comment vous êtes rentré là-dedans et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là-dedans, quoi, d'être dans cette ingénierie et dans cette recherche pour les cockpits et pour le pilotage quelque part ?
Alors moi, ça a commencé quand j'étais collégien et ça a continué au lycée. Après avoir visité le salon du Bourget, ça a confirmé en fait tout mon intérêt pour l'aéronautique. Après j'ai poursuivi avec une mini-formation pendant mon année de première. Ça s'appelle le brevet initiation aéronautique, le BIA, peut-être ça parle à certains. Donc voilà, c'était juste une ouverture sur l'aéronautique pour prendre des marques. Encore une fois, ça a confirmé tout mon intérêt et voilà, après je me suis orienté vers des filières scientifiques et vers l'ingénierie. J'étais toujours intéressé par tous les transports, l'automobile et l'aéronautique en général.
D'accord. Et toi, Vianney ?
Moi, j'avais moins la fibre exclusive aéronautique qu'a pu l'avoir Antoine. En fait, j'étais intéressé par tout ce qui était technique. Très petit, j'avais le projet d'être ingénieur, même si je savais pas ce que c'était quand on est au collège ou quoi. Bon, on se rend pas compte que ce que ça peut être d'être ingénieur. Donc, j'ai suivi un cursus, une voie assez classique, bac général. Et puis après, j'ai fait une prépa en physique et technologie. Donc là où j'ai fait de la commande numérique, j'ai fait de l'automatique, j'ai fait de la physique, c'était très très large. Et donc je me suis orienté vers une filière d'ingénieur en génie électrique, sans spécificité particulière. Et après c'est vraiment mes stages de fin d'études, mes deux derniers stages au fait d'études, puis mon premier emploi qui m'a fait basculer côté aéronautique. Et ça fait maintenant plus de 16 ans que je travaille dans le milieu aéronautique.
Bien, et vous, jeunes gens, est-ce que vous vous êtes amusés quand vous étiez petits à faire un peu comme Tony Stark, à faire des... avec je vais dire une marque, attention, Lego Technique.
Moi, quand j'étais petit, ce que j'aimais bien, c'était les téléphones. J'aimais bien les démonter, regarder ce qu'il y avait dedans ou autre.
Ah ben c'est pas mal, et il marchait après.
Oui, il marchait, je prenais les photos et je remontais après.
Ok.
Et après, mon père aussi faisait un peu de ça, du coup ça m'a donné envie de... continuer un peu plus loin et voir ce que ça donne. C'est pour ça, du coup, je me suis retrouvé dans cette filière. Et après, j'ai vu mes horizons se sont élargis, j'ai vu de nouvelles choses et ça me donne encore envie d'aller un peu plus loin.
Bien, ben, je te le souhaite. Qui c'est qui a démonté autre chose?
J'ai démonté un écran.
Ah!
Un vieil écran. Après, je l'ai cassé.
Attends, un vieil écran cathodique?
Non, enfin. Non, c'est un vieil écran de. Je sais plus, des années 2000.
Donc toi, t'as démonté un écran et ouais. Tu l'as pas remonté, quoi.
Non.
Mais tu as vu comment c'était à l'intérieur.
Ouais, t'avais les cartes électroniques et tout. Mais ça, je sais pas, en fait, c'est pourquoi, mais quand j'étais petit, j'avais récupéré des vieux trucs électroniques tout pourris et tout ça, et j'avais démonté toutes les cartes et je les avais gardées, en fait. Tu vois, ça pourrait me servir un jour, ça m'a jamais servi, mais genre, le fait d'avoir des cartes, je sais pas, je trouve ça stylé.
C'est vrai que c'est stylé, ouais. les cartes avec leur petit réseau où on ne sait pas trop où ça va, le processeur, les microprocesseurs. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses, des transistors qui paraissent un peu comme la boîte noire, la boîte fermée de la science, de la technologie. Vas-y Aurélien.
Alors, quand j'étais petit, je m'amusais à démonter des ordinateurs, alors portables ou fixes. J'arrivais à les remonter. Les portables c'était un peu plus compliqué parce que forcément c'est plus petit, c'est plus voilà. Alors mon premier ordinateur fixe, je l'ai monté à 13 ans. C'est, je pense, jeune. Je me suis toujours intéressé à l'électronique parce que je trouvais ça intéressant, beau, et je trouvais qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Et du coup voilà, j'ai pris cette filière parce que on y touche beaucoup. Enfin ouais, pas mal je trouve. Et je compte poursuivre vers un BTS SN qui touche encore plus à l'électronique et aux composants.
Ça, c'est pas mal, non hein?
Oui, c'est pas mal, effectivement. C'est ce que tu disais. L'électronique, c'est un petit peu le secret du mécanisme. En fait, en regardant une carte électronique, on ne sait pas du tout comment ça marche. On sait à quoi ça sert, quelle fonction il doit avoir. Mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Et ben, ça, c'est le travail de l'ingénieur, justement, de positionner les composants habilement pour répondre aux fonctions demandées, quoi. Mais je trouve que c'est, ouais, effectivement, 13 ans, c'est pas mal pour monter un premier ordinateur, ça permet de faire des trucs intéressants après.
Et t'as pas eu des petites, chatouilles électroniques? Parce que les petits condensateurs, là, ils aiment bien se décharger parfois aussi,
non,
faire attention.
Jamais, j'ai eu beaucoup de chance.
Ouais, c'est bien. On a parlé du BIA, le brevet.
Initiation aéronautique.
Vous le connaissez?
Ouais.
Et est-ce que ça vous intéresserait de le passer? C'est difficile?
Non, c'est pas difficile.
Oh, il faut s'accrocher
un
petit peu.
Il faut être un petit peu assidu.
Oui, voilà.
Mais c'est pour la culture générale, c'est très, très enrichissant.
Bon, il faut apprendre un petit peu d'anglais, mais technique pour pouvoir voler, quoi.
Un petit peu de notion de météorologie, un petit peu de notion de mécanique du vol, un peu d'histoire de l'aviation.
Oui. Et ça, c'est intéressant parce que après, on peut aller prendre piloter des ULM, des choses comme ça, et on a déjà les notions des vents ascendants et tout. Franchement, si vous avez encore un petit peu de temps sur vos études, et si, évidemment, les conditions sanitaires le permettent, je vous invite à le passer. On va continuer sur notre jeu des 1000 curieux. On a vu que Tony Stark est un surdoué de l'électronique. Et dans le film, il y a une attaque militaire T'en souviens, Juan?
Ouais, il vend des armes, en fait. Des armes nucléaires, tout ça, et il se fait attaquer. Il se fait voler tous ses plans.
Et qu'est-ce qui se passe, justement, là, quand il s'est fait attaquer?
Ben, en fait, il se fait capturer dans un bunker. Et en fait, les terroristes, ils lui ont demandé de créer l'arme la plus puissante, je sais plus ce que c'était. Et en fait, lui, il y a que lui qui connaissait les plans, ben, il les a modifiés et s'est fait son armure.
Oui, mais avant, il faut dire quand même qu'il a été blessé par ses propres armes. Et son co-détenu, qui est un médecin, va lui implanter quelque chose.
Alors, il me semble que ça s'appelle un répulseur électromagnétique. C'est, ça empêche le shrapnel d'atteindre le cœur, ce qui permet de le maintenir en vie momentanément.
Eh bien, on va écouter l'extrait.
Putain, qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est que j'ai fait? Mais j'ai fait que vous sauvez la vie. J'ai extrait pas mal d'éclats de shrapnel. Il en reste beaucoup. Il se dirige vers votre cloison interventriculaire. Tenez, vous voulez voir? J'ai gardé un petit souvenir. Regardez. J'ai vu beaucoup de blessés comme vous dans mon village. On les appelle les morts qui marchent. Parce que les barbillons mettent près d'une semaine à atteindre les organes vitaux.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est un électro-aimant. Connecté à une batterie de voiture. Et ça, ça empêche le shrapnel de pénétrer dans votre cœur.
Hein? Ok. Donc, un électro-aimant, comment ça fonctionne?
Le principe, c'est d'envoyer un courant électrique sur une pièce magnétique, au fait, pour accroître sa force magnétique, sa puissance magnétique, au fait, en fonction du courant qu'on envoie à l'intérieur.
Et là, il a commencé avec une première force électrique qui était due à une batterie. Et donc après, durant le film, est-ce qu'il va garder sa batterie sous le bras? Alors je vois des jeunes qui disent non de la tête, mais...
Il garde plus la batterie, mais... Je sais plus ce que c'est. Je sais plus...
Tu sais plus ce que c'est? Ok, d'accord, mais il a plus la batterie. En effet. Avec qui il travaille quand il revient aux États-Unis? Comment il s'est évadé du bunker?
Avec son armure.
Avec son armure. Donc il va essayer d'améliorer son armure. Et il va être aidé, parce que tout seul, on peut pas le faire. Et il va être aidé par qui?
Son intelligence artificielle.
Son intelligence artificielle. Et c'était qui, cette intelligence artificielle?
Jarvis.
Waouh, vachement fort.
Ok, ok, je vole.
Tu es là, Jarvis?
À votre service, monsieur.
Déclenche l'alerte visuelle.
Ok.
Importe les préférences de mon interface.
Tout de suite, monsieur.
Ça y est, on peut y aller.
Téléchargement terminé, monsieur. Nous sommes en ligne et opérationnels.
Démarrage patrouille virtuelle.
Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel.
Vérifie les surfaces de contrôle.
Ça. Test des connexions et démarrage des diagnostics.
Sors-moi un rapport météo et trafic aérien. Connecte-toi au tour de contrôle.
Monsieur, des thermites de calcul sont encore nécessaires avant toute tentative de vol en milieu...
Jarvis, faut parfois savoir courir avant de savoir marcher.
Eh ouais, c'est Jarvis. Et Antoine et Vianney, vous aussi, vous avez des intelligences artificielles, des ordinateurs centraux, vous leur donnez un petit prénom?
Oui. Oui, on en a. On se fait aider. Enfin, c'est plutôt des ordinateurs et des qui nous permettent de. Enfin, des ordinateurs spéciaux plutôt qui permettent d'assurer des fonctions qu'un ordinateur classique ne pourrait pas assurer. Et effectivement, on leur donne des noms pour qu'ils soient un peu plus familiers.
Eh bien, on va leur envoyer le bonjour. Alors, comment se nomme-t-il?
On a une Marguerite.
D'accord, bon, mais bonjour Marguerite.
Bonjour
alors.
Bonjour à Marguerite. Et je pense qu'elle transmettra le bonjour aux autres membres de la famille.
Alors, c'est assez incroyable que dans les films de science-fiction et donc du coup dans la réalité, on donne un prénom à l'ordinateur central. Dans d'autres films science-fiction, on a ce phénomène aussi là. Pourquoi on donne un prénom? Parce que inconsciemment, on donne un prénom parce qu'on a une sorte d'attachement, on a une sensibilité.
peut-être pour se familiariser justement avec quelque chose qui est loin d'être de nature humaine, pour simplement se rassurer peut-être et avoir l'impression de finalement avoir affaire à un humain plutôt que quelque chose de très très inhumain.
C'est ça, oui, pour personnifier la machine et puis pour accepter aussi qu'elle puisse être défaillante hein, comme les humains et que ben voilà, faut essayer de la caresser dans le sens du poil, si on peut utiliser cette expression, pour que ça refonctionne à nouveau, que ce soit la Marguerite ou d'autres chèvres du cheptel.
D'accord. Et est-ce que vous, jeunes gens, vous donnez des petits noms à votre ordinateur ou à votre téléphone ? Est-ce qu'il y a un côté tellement affectif avec cet objet électronique que vous, c'est votre téléphone et puis voilà quoi ?
Alors, je pense qu'en fait, un prénom n'est pas nécessaire pour une machine qui n'a pas besoin de parler, en fait, parce que ce qu'ils appellent Jarvis dans le film, c'est aussi un assistant vocal, ça s'appelle. Et en fait, ça répond à une commande vocale, donc Jarvis, c'est son nom, je pense. Alors, c'est fait par Google, par Amazon, qui s'appelle OK Google, l'assistant Google, et Alexa, je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Voilà. Alors, je pense qu'une machine qui a besoin de répondre comme ça n'a pas forcément besoin de prénom, comme un téléphone, par exemple. On n'est pas obligé de lui donner un prénom parce que il a pas besoin de nous répondre, on n'a pas besoin de l'appeler. C'est comme si on donnait un prénom à une plante, ça servirait à rien.
Tu penses ça ?
Bah, je pense, oui.
Alors, il y a un film de science-fiction où justement l'ordinateur, enfin l'intelligence artificielle qui a créé un algorithme, elle parle avec un humain, je me rappelle plus du nom du personnage, et ce personnage tombe amoureux de cette voix. Le film s'appelle R, H-E-R. D'accord. Vous voulez dire quelque chose ? On continue alors. Tony Stark a créé une armure. Il a fait des essais, et il y avait un point faible dans ses essais. Vous vous souvenez ? Qui, du coup, dans sa bataille finale, est devenu son point fort parce qu'il a réfléchi à ce point faible. C'est complexe.
Dans le film, je me souviens, au bout d'un moment, son armure, elle se gèle à cause de... Je sais pas pourquoi.
Voilà, parce qu'il est à la limite de l'atmosphère. Voilà, c'est ça. Entre l'atmosphère et l'espace. Voilà. Et en fait, dans la portance de l'avion, c'est vrai qu'il faut aller assez vite. Et en étant à la limite entre l'espace et l'atmosphère, il y a un problème de température. Eh bien, nous allons l'écouter. C'est la battle. Merci, Gilles.
Capacité 12%.
Grimpe.
11%.
Grimpe encore.
5%.
Laisse l'info à l'écran et ne me parle pas.
'Étais une idée de génie, Tony. Mais mon armure est plus performante à tout point de vue.
Comment tu as résolu le problème du dégivrage ?
De quel problème tu...
Tu devrais t'en préoccuper.
Et voilà. Et vous faites aussi des essais pour voir ce que vous n'avez pas pu réfléchir en laboratoire, ça, Vianney ?
Oui, enfin, on fait des essais, effectivement, qu'on parle de qualification environnementale pour vérifier, au fait, le comportement et puis la robustesse du produit sur différents environnements, la température, les vibrations, et voilà, et puis j'en parlais, la compatibilité électromagnétique, donc le rayonnement. Et je voulais juste rajouter, on parlait de dégivrage là dans le film, vous pourrez regarder, effectivement, il y a une pale de l'hélice A400M qui est exposée là juste dans votre atelier. Alors vous regarderez, il y a un dégivreur en fait qui est alimenté électriquement aussi parce que l'avion en fait il gèle en vol. Et donc il y a des systèmes de dégivrage sur les avions évidemment pour garantir la... Là c'est pas l'importance puisqu'on est sur une hélice, mais pour éviter qu'il y ait des blocs de glace trop importants qui se forment.
Oui. Et oui, c'est un sacré problème. Bon, Iron Man se termine. Comment ?
Bien.
La presse essaye de raconter ce qui s'est passé sur la ville. Je vais vous faire écouter l'extrait où Tony Stark lit le journal.
Iron Man, ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié. Il est fait d'un alliage de titane et d'or. Mais c'est assez évocateur, l'image est intéressante.
Donc Iron Man, ben il est pas fait de fer, hein. Comment on appelle ça quand il y a un métal et quelque chose d'autre?
Un alliage.
Tout à fait. Et vous, dans les laboratoires, vous concevez des alliages, d'autres alliages que vous connaissez, qui sont connus. Vous êtes en recherche de ça par rapport à la structure, par rapport.
Oui, pour la tenue mécanique, on utilise des matériaux bien connus sur lesquels on a déjà des retours d'expérience et. Qui sont bien connus de par leurs utilisations passées.
Et aussi au côté électronique, hein, vous en avez tous vu, si vous avez vu des cartes électroniques, les composants en fait sont soudés avec un alliage. Donc dans l'aéronautique, on a une exemption pour utiliser du plomb, donc c'est encore un alliage d'étain et de plomb. Mais maintenant dans les téléphones, c'est sans plomb, mais c'est quand même un alliage avec de l'étain et puis un certain nombre de matériaux.
Ok. Vous faites beaucoup de soudure en ce moment ?
On commence à en faire un peu là.
Et la difficulté de la soudure, c'est quoi?
C'est quand c'est tout petit. Genre, un tout petit truc, c'est faut être précis, et quand on tremble, c'est pas fou.
Et puis, faut pas faire le pâté, quoi.
Ouais.
Le pâté, la belle soudure qui brille et tout. Mais là, maintenant, quand on passe dans la micro, le micro-ordinateur et tout ça, micro-circuit, on a quand même des appareils pour faire des soudures précises.
Oui, il y a des appareils. Alors, les cartes électroniques qui sont produites pour être destinées à être montées, au fait, dans les avions, ça c'est des machines qui produisent, des machines de placement, enfin c'est des immenses machines. Par contre, on a encore besoin de la compétence manuelle pour tout ce qui est dépannage et diagnostic et mise au point. Et moi, j'ai un technicien et un ingénieur qui passent la plupart de leur journée à dessouder, ressouder des tout petits résistants, je ne sais pas si... ce que vous utilisez, mais ils sont sur du 0402 en ce moment, je sais pas si ça vous parle. Voilà, et donc là, c'est binoculaire, soudure, et effectivement, faut pas trembler.
Et comment on fait pour pas trembler?
L'expérience.
On arrête de respirer, en fait.
Ouais, faut respirer calmement.
C'est ça.
Donc vous faites aussi de la méditation, juste avant?
Non, faut pas abuser, mais vraiment, faut se concentrer, faut respirer tranquille, et ça va.
Et après, vous pouvez devenir des as de la soudure.
Exactement.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Est-ce que vous avez des questions à nos invités?
J'avais une petite question.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi de nous interviewer, nous, enfin notre classe et
sa spécialité? Eh bien, parce que nous sommes accueillis par Laurent, votre professeur, Laurent Nonorgue, qui est du club Robotronique et qui, depuis plusieurs années, amène des élèves avec leurs projets sur les expo-sciences. Les expo-sciences, c'est un événement où des jeunes de la région se retrouvent et présentent leurs projets qui peuvent être différents, qui sont pas forcément de la robotique, qui peuvent autant être dans la biologie. Et chaque année, Monsieur Nonorgue donc fait aussi les trophées de la robotique, qui a une sélection régionale et puis après une sélection nationale. Et est-ce que tu fais partie du club Robotronique?
Non.
Est-ce que ça te tente d'y aller?
Pas trop, parce que c'est mercredi après-midi.
Ah, et le mercredi après-midi, tu fais quoi en ce moment?
Je dors.
Ah ouais, parce que tu vas pas ni au cinéma et tu fais même pas du sport à l'extérieur.
Non.
D'accord.
Mais là, cet après-midi, je vais rester pour justement faire l'électronique.
Un petit peu.
Pas du robot, mais autre chose.
Ok, ben tu vas voir que le club est intéressant parce que il y a plusieurs catégories. On fait pas que de la soudure, on fait beaucoup de conceptions aussi. Et puis Monsieur Nonor tout à l'heure nous en parlera avec les élèves qui viendront cet après-midi. Voilà. Et tous les projets que vous avez dans la tête, c'est intéressant de nous le montrer, nous les adultes, autant aux ingénieurs, parce que votre créativité, elle alimente aussi tout un processus et tout le monde a besoin de personnes créatives. Enfin, je sais pas, je vous fais ce porte-parole-là, mais Vianney et Antoine, vous pouvez compléter.
Oui, on a besoin d'innovation, de nouvelles idées. Alors l'intérêt du club Robotronique aussi, c'est de mettre en pratique directement des sens de l'ingénieur et voilà, avec du concret, et pas penser que le métier électronicien, mais penser le système de sa manière, de sa vue globale. Et voilà, et avec toutes les contraintes du métier de l'ingénieur.
Eh ben voilà, je vous remercie. Merci. On va pouvoir s'applaudir parce que merci beaucoup, même pour ceux qui n'ont pas eu le micro, mais merci d'être là.
Merci.
Alors je remercie Gilles pour la partie technique. Je remercie aussi le lycée Champollion, Eliane, Antoine et le Cirasti avec Mariam Léonie.